Vous êtes sur RTL.
Gérald, il était heureux d'y aller. C'était le bout du tunnel pour lui. Pour moi, il y a un souci quelque part. Moi, je pense que Gérald, il lui est arrivé quelque chose.
Bonsoir, dans l'heure du crime, nous allons partir ce soir sur les traces d'un fantôme, une ombre, un homme qui était promis à un destin d'acteur, à une grande carrière au cinéma, et qui a été rattrapé par la chronique criminelle accusée du meurtre sauvage d'une postière dans un village de l'Ain. Cet homme, c'est Gérald Thomassin, révélé en 1990 par le film Le Petit Criminel de Jacques Doyon, César du meilleur espoir l'année suivante. Il aurait aujourd'hui 46 ans, je dis aurait, car depuis un peu plus d'un an, c'était le 28 août 2019, Gérald Thomassin a disparu. Il s'est volatilisé, plus aucune trace. Personne ne sait si l'acteur est vivant ou mort. Il était depuis longtemps tombé dans la marginalité. La drogue, l'alcool, les expédients hantés depuis 6 ans par sa mise en examen. Curieuse disparition survenue le jour où Gérald Thomassin allait voir se lever contre lui les poursuites pour le meurtre de la postière. À la veille d'un rendez-vous pour une ultime confrontation dans le cabinet d'un juge lyonnais. Sa trace se perd lors de son voyage en train. À la fin juin, Gérald Thomassin obtenait la décision qui l'attendait si fébrilement, un non-lieu. C'est un autre homme qui sera donc renvoyé devant la cour d'assises pour le meurtre de la postière. Où est Gérald Thomassin? A-t-il organisé sa disparition? Et pourquoi avait-il été suspecté de meurtre? Nous répondrons à ces questions avec nos invités. Gérald Thomassin, le coupable était-il sur mesure? C'est l'enquête de l'heure du crime, ce soir sur RTL. A tout de suite.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
RTL.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Heure du crime où nous revenons ce soir sur l'énigme Gérald Thomassin, un acteur prometteur qui sera un jour accusé de meurtre. Le meurtre d'une mère de famille dans un village tranquille de l'Ain. Ce 19 décembre 2008, à 6h45, Catherine Burgot quitte son domicile accompagnée de sa petite fille pour se rendre à son travail à quelques kilomètres de là au bureau de poste de Montréal-la-Cluse. 3500 habitants, un bourg posé sur les rives du lac de Nantua. Catherine Burgot tient le guichet depuis 15 ans. Cette jolie femme, âgée de 41 ans, est une fille du coin, fille du secrétaire du maire. Elle a 2 enfants, est divorcée, un nouveau compagnon dont elle est enceinte de 5 mois. Vers 8h30, elle confie sa fille au chauffeur de car scolaire, puis retourne dans le bureau de poste. L'alarme est alors déverrouillée et le coffre, comme d'habitude, est ouvert. À 9h03, le menuisier de Montréal-la-Cluse pousse la porte du bureau de poste. Personne derrière le guichet, seul le petit chien de Catherine Burgot, un bichon blanc, vient à sa rencontre. Le menuisier le suit. La postière est allongée sur le sol près du coffre. Elle gît dans une grande flaque de sang. Elle est morte. On vient de la tuer. Dans les heures qui suivent le meurtre, les gendarmes effectuent les premières constatations. Une enquête criminelle classique. Photos, relevés d'empreintes digitales, de traces ADN. Le légiste indique que la victime a été poignardée à plusieurs reprises. 28 coups de couteau, dont au moins 3 mortels, sont dénombrés sur le corps. On sait acharné sur la postière, sans doute pour lui dérober de l'argent. Son sac à main n'a pas été emporté, mais l'argent liquide que contenait le coffre, 2000 à 3000 euros, oui. La scène ressemble à un hold-up qui aurait mal tourné. L'arme du crime a disparu et aucun témoin n'a vu ou entendu quoi que ce soit, bien que le bureau de poste soit situé dans une rue passante et commerçante. Qui a tué Catherine Burgot, une femme que tout le monde connaissait à Montréal-la-Cluse? Les hypothèses vont bon train. Les gendarmes vont étudier plusieurs pistes. La première est familiale, celle de l'ancien mari de la victime, présenté comme un homme jaloux et qui n'aurait pas supporté que son ex refasse sa vie. Hypothèse qui s'appuie sur le fait que la postière s'est défendue contre son agresseur, a même essayé de le frapper, alors qu'elle avait toujours dit qu'elle respecterait à la lettre les consignes en cas de hold-up face à un inconnu, ne jamais tenter de résister. L'ex-mari sera très rapidement mis hors de cause. C'est donc dans une autre direction qu'il va falloir aller chercher. Bonsoir Frédéric Boudouresque.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Vous êtes journaliste au Progrès, merci d'être ce soir dans l'heure du crime. Vous connaissez parfaitement cette affaire sur laquelle vous avez enquêté. Alors, il y a tout de même un petit point qui est gênant dès le départ sur cette scène de crime, c'est qu'il n'y a vraiment aucun témoin, personne n'a rien vu, rien entendu.
Oui, c'est un peu étonnant. Pendant la, on va dire la demi-heure qui se passe entre l'arrivée de Catherine Burgot à la poste et puis le moment où son corps est découvert, effectivement, personne n'a rien vu, personne n'a vu une voiture garée devant la poste ou quelqu'un rentrer, sortir. Donc, à ce moment-là, dans le village, c'est peut-être un peu le hasard, mais en tout cas, il n'y a eu aucun témoin à ce meurtre.
Aucun témoin, personne n'a rien vu, donc rien entendu, on le répète parce que c'est important et on le verra par la suite. On a un peu l'impression, Frédéric Boudouresque, que les agresseurs connaissaient en tout cas les lieux, connaissaient les habitudes de ce petit bureau de poste.
Ce n'est pas impossible. Alors c'est vrai que c'était un tout petit bureau de poste, c'est une agence postale communale, et tellement petite qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéosurveillance, contrairement à la plupart des agences bancaires. Il n'y a pas non plus, on va dire, de vitres sécurisées qui interdisaient l'accès entre l'endroit où se trouvent les clients et puis l'arrière et puis le coffre. Mais on ne peut pas en déduire quoi que ce soit. Ça peut être aussi un crime d'opportunité, un braquage d'opportunité.
Quelqu'un qui passerait à ce moment-là et qui profiterait de cette occasion pour essayer de prendre l'argent dans le coffre et qui aurait tué la postière. Alors, il y a un événement important, c'est juste un mois après le crime, et vous allez nous le raconter, Frédéric Boudouresque. C'est le 16 janvier, vers 15h, les sœurs de Catherine Burgot, de la victime donc, vont apercevoir un homme assis sur la tombe de la postière. C'est bien ça ?
C'est ça, et cet homme, c'est Gérald Thomassin. Mmh. Donc Gérald Thomassin, vous l'avez présenté, c'est cet acteur césarisé qui était venu, on va dire, se mettre au vert à Montréal-Lacluse. Bon, il était toxicomane et il est venu arrêter l'héroïne, même s'il continuait effectivement à boire. Et il était venu donc un peu se mettre,
au vert. En sevrage, c'est ça ?
En sevrage, on va dire ça. Et effectivement, il connaissait la postière, puisqu'effectivement, il allait retirer de petites sommes. On sait que les semaines précédentes, il allait retirer 15, 20 euros.
Oui, pour le RSA.
Pour le RSA, voilà. Il avait même laissé un CD, parce que à Montréal-Lacluse, personne ne voulait croire que c'était un acteur. On regardait un petit peu en souriant, en disant, il nous raconte bien ce qu'il veut, c'est un train de savate. Donc il avait laissé un CD avec son premier film, son dernier film, à l'intention de la seconde postière, il l'avait laissé à Catherine Burgot. Donc effectivement, il connaissait les lieux, il y allait régulièrement, il habitait à une dizaine de mètres, on va dire, dans la même rue. Donc il connaissait les lieux. Lui-même s'est dit après très touché par ce décès. Il a été à l'enterrement. Il n'a pas pu y rester parce qu'il souffrait du dos à cause de son traitement à la méthadone. Et donc, selon lui, il serait allé se recueillir sur la tombe pour lui parler, pour lui dire qu'il était très touché par cette mort. Voilà.
Se recueillir sur la tombe, car c'est effectivement Gérald Thomassin, acteur toxicomane, que les sœurs de la postière ont croisé ce jour-là. Il est ivre, il vit avec d'autres marginaux dans un appartement social de Montréal-Lacluse, pratiquement, on l'a dit, en face du bureau de poste. Son signalement va vite retenir l'attention des enquêteurs. L'affaire Gérald Thomassin, un acteur rattrapé par la justice, c'est l'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
Oui. 20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Gérald Thomassin, acteur prometteur tombé dans la marginalité et la drogue. Il vit tout près de la poste de Montréal-Lacluse où la guichetière a été tuée à coups de couteau. Les enquêteurs vont s'intéresser à lui. Les sœurs de la postière tuées à coups de couteau ont été intriguées par ce Gérald Thomassin croisé sur la tombe de leur sœur dans le cimetière de Montréal-Lacluse. À cette époque, Thomassin est âgé de 34 ans. 20 ans auparavant, alors adolescent, il avait eu son heure de gloire. Révélé par le film de Jacques Doyon, le petit criminel César du meilleur espoir masculin en 1991. La presse s'était alors extasiée sur le jeu de cet acteur débutant qui, malgré sa jeune vie, avait déjà un passé chaotique. Une famille quasiment absente et le passage dans des foyers de la DAS. Au fil des années, alternant tournage, disparition et drogue, Thomasin allait ainsi devenir l'électron libre du cinéma français. Il a atterri à Montréal-Lacluse il y a un an et loge montée du pavé juste en face de La Poste, un studio partagé avec deux autres marginaux. Gérald Thomasin connaissait la victime, Catherine Burgot. Tous les 6 du mois, il allait percevoir au bureau de poste son allocation du RSA. Dès le matin du crime, les gendarmes ont rendu visite à ce marginal. C'était environ une heure après la découverte du corps, dans le cadre de l'enquête de voisinage. Un policier municipal et un gendarme l'ont rencontré. Dans leur rapport, ils décrivent Gérald Thomasin comme un homme qui était dans son lit et buvait son café. La visite du studio n'apporte rien. Le gendarme demande même à examiner les mains du locataire, mais là aussi, aucune trace suspecte. Gérald Thomasin n'a rien vu, rien entendu. L'enquête de voisinage s'arrête là. Les investigations, dès lors, ne vont plus beaucoup progresser. Les empreintes, les traces ADN ne correspondent pas au profil des éventuels suspects. Elles ne matchent pas avec les marginaux qui logent face à La Poste, Gérald Thomasin compris. Elles ne matchent pas non plus avec celles de l'ex-mari de La Postière. Les gendarmes ne disposent d'aucun témoignage digne de ce nom. Le meurtre de Catherine Burgot reste donc une énigme, même si la piste Gérald Thomasin va continuer à prospérer. Le père de La Postière a ainsi la conviction solidement ancrée que l'acteur est l'homme qui aurait pu poignarder sa fille. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès, on vous retrouve au téléphone ce soir de l'heure du crime. Je viens de citer le père de la victime de La Postière, Raymond Burgot, qui va envoyer une lettre, pas de dénonciation, mais une lettre un petit peu curieuse aux gendarmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il lui parle d'une rencontre avec Gérald Thomasin, c'est bien ça ?
Oui, il parle d'une rencontre un peu fortuite dans les rues, on va dire à peu près 6 mois après le crime. Et Gérald Thomasin, qui se savait un peu suspecté finalement, est venu voir le père en lui disant « mais j'y suis pour rien, j'aurais jamais pu faire une chose pareille ». Et ce qui a un peu intrigué le père, c'est qu'il lui a sorti le couteau qu'il a dans la poche en lui disant « mais moi, je m'y serais pas pris comme ça ». Enfin bon, il a une attitude qui a pu paraître étrange au père, mais qui peut aussi être interprété dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi qu'un meurtrier ne s'amuserait peut-être pas comme ça à aller voir le père de la victime. Vous voyez, bon, ça c'est une attitude étrange, et donc le père de la victime effectivement a signalé ça aux gendarmes. Il faut dire aussi qu'il y a eu un incident avec l'ancien mari de Catherine Burgot.
Je voulais vous poser la question là-dessus, parce qu'effectivement, Thomasin, à ce moment-là, dans ce village, il faut bien l'appeler comme ça, évidemment, tout le monde le regarde de travers. Voilà. Thomasin, il fait partie des suspects plausibles, en tout cas tellement évident, vu sa dégaine, qu'on a l'impression qu'effectivement il aurait pu tuer ou agresser quelqu'un. Et effectivement, il va lui-même être agressé par l'ex-mari de Catherine Burgot, c'est ça ? Racontez-nous.
C'est ça, qui va s'en prendre à lui dans la rue, hein, c'est une agression physique, on va dire, qui vaudra une plainte de la part de Thomasin. Et surtout, Thomasin décidera à ce moment-là de quitter le village, donc il préviendra les gendarmes en disant « voilà, je m'en vais, je vous dis où je m'en vais à Rochefort, à telle adresse, etc. » Et donc, il quitte le village. Il savait que de toute façon, il était effectivement, oui, il était suspecté. Alors, Thomasin, moi, je l'avais interviewé pour le Progrès au mois d'octobre 2015, et il m'avait dit « bon, vous comprenez, c'est le délit de sa gueule, j'étais toxico, je prenais 16 mg de Subutex par jour, j'avais toujours une canette à la main, je travaillais pas. Bon, voilà, les gens ont inventé, ils voyaient que mes balafres, mon 3/4 en cuir, mes bottes, vous voyez, donc ils se sont dit, voilà, ça c'est un gars qui peut faire quelque chose comme ça. Voilà, selon lui, c'était un délit de sa gueule, je crois qu'il avait bien résumé la situation, c'est comme ça qu'il le présentait en tous les cas.
Comment vous l'aviez ressenti ? Parce que ça c'est intéressant, vous êtes une des rares personnes qui l'a vu et côtoyé pendant cette enquête et qui l'a interviewé. Qu'est-ce que vous avez ressenti face à lui ? Est-ce que c'était quelqu'un de perdu, en colère ?
Oui, il est à la fois perdu, en colère, il était très affaibli par sa sortie de prison, c'était après sa sortie de prison, et surtout j'ai ressenti personnellement la paranoïa de Thomasin, c'est-à-dire que Tout le monde a toujours dit dans son entourage que c'était quelqu'un de paranoïaque. Et c'est vrai que quand je l'ai appelé, il savait pas comment je l'avais retrouvé, comment je l'avais, qui j'étais, etc. Enfin, il y a eu voilà un échange de coups de fil comme ça qui avait été assez compliqué parce qu'il se méfiait vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est ce que j'en avais dit. Il m'avait raconté effectivement son séjour en prison où il avait perdu une vingtaine de kilos, qui était très très dur. Et il vivait très mal le fait d'être accusé. Voilà.
Oui, donc ça passait pas pour lui. Un mot, Frédéric Boudouresque, encore sur cet étrange trio qui habite dans cette espèce de studio face à la poste. Ce sont trois marginaux, c'est ça, qui se sont retrouvés à cet endroit-là.
Ils n'habitaient pas tous les trois dans le studio. C'était vraiment un tout petit studio. Simplement, Thomasin, au gré, on va dire, de ses sorties nocturnes, de ses beuveries, il arrivait qu'il héberge un ou deux de ses copains ou que lui dorme ailleurs d'ailleurs. Mais il ne les hébergeait pas. Hein. Il était vraiment tout seul dans ce studio.
Gérald Thomasin quitte effectivement Montréal-Lacluse pour aller vivre sac au dos à Rochefort, en Charente-Maritime, tout près de La Rochelle. Il a signalé son départ aux gendarmes. Il paraît hanté par cette histoire de crime, persuadé qu'on lui en veut, qu'on veut faire de lui un meurtrier. Il va donc reprendre sa vie d'errance où la drogue est omniprésente. L'affaire Thomasin, un espoir du cinéma devenu le coupable idéal, c'est l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Retour ce soir sur l'affaire Thomasin, Gérald Thomasin, espoir du cinéma français qui peu à peu se retrouve au centre d'une enquête pour meurtre. 5 ans après la mort de la postière Catherine Burgot, les gendarmes ont la conviction que c'est lui qui a tué. En ce début d'année 2013, les enquêteurs de la section de recherche de Lyon sont persuadés que la piste Thomasin est la bonne dans le dossier d'homicide de la postière. Ils n'ont pas d'éléments concrets pouvant incriminer formellement l'acteur, traces ADN, témoins directs ou déclarations, mais ils disposent de ce qu'on appelle communément un faisceau d'éléments. Selon les gendarmes, les soupçons ne sauraient être éludés. Le père de la victime n'a cessé de faire part de ses doutes. Il a même aiguillé les enquêteurs vers un ouvrier qui aurait recueilli les aveux de Thomasin. L'ouvrier dément, mais le doute s'installe. L'un des marginaux qui vivait avec Thomasin près de la poste a aussi cette phrase. « Je pense que Thomasin n'est pas l'auteur, mais je peux imaginer qu'il sait quelque chose. » Les enquêteurs scrutent la filmographie de l'intéressé, dénombrent les scènes macabres ou celles qui approchent le paranormal. Il est indiqué que cet acteur a pu tenir ce rôle de meurtrier et s'en extraire en se persuadant que ce n'est pas lui qui a agi. Au mois de juin 2013, Gérald Thomasin, qui vit désormais dans un logement social à Rochefort, en Charente-Maritime, reçoit une nouvelle convocation de la gendarmerie. Il est alors en proie à l'incrédulité, au désespoir et à la colère. La veille de partir pour Lyon, où doit se dérouler l'audition, il boit 2 bouteilles d'alcool et prend des médicaments. Il téléphone à son frère, dans un état pour le moins comateux. Il lui fait part de sa convocation. Manifestement embrumé, il déclare « Je vais aller les voir pour leur dire que c'est moi. Je ne suis pas coupable, mais comme ça je saurai la vraie histoire. » Son frère tente de le raisonner. Gérald Thomasin ajoute « Si, c'est moi. Je me suis pris 3 000 $ dans les poches. Je vais avouer, je suis un bonhomme. Ça s'appelle être un bonhomme. » La conversation est enregistrée. Thomasin était sur écoute. Le 12 juillet 2013, 5 ans après le meurtre de la postière, Gérald Thomasin est mis en examen pour vol avec arme et meurtre sur personne chargé d'une mission de service public. Il est écroué. Pour le père de Catherine Burgot, c'est une délivrance.
C'est un énorme soulagement. Ça a été long. C'était 4 ans et demi de douleur, d'angoisse. J'avais l'impression qu'on n'aboutirait jamais. Vous savez, il m'arrive de faire des cauchemars. J'en fais très souvent. Et je rêve à ma fille qui me dit dans mes cauchemars, « Papa, venge-moi ». Eh bien, j'ai collaboré avec la police et je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit vengée, la pauvre. C'est le début de la justice.
C'est le début de la justice, dit le père de la victime. Maître Camille Radeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en ligne dans l'heure du crime et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec Maître Antoine V, l'avocat de Gérald Thomassin. Maître Radeau, que pensez de ces aveux qui l'ont conduit en prison ? Je dis aveux entre guillemets puisque ce sont des aveux lors d'une conversation téléphonique.
Oui, je vous remercie de mettre des guillemets à ce terme d'aveu et je crois que vous avez assez bien résumé en fait ce qui s'est passé et ce qui a été dit à l'occasion de cette conversation téléphonique. Il faut bien comprendre l'état d'esprit de Gérald Thomassin à cette époque-là. C'est quelqu'un qui est hanté par ce dossier depuis presque 5 ans, qui a déjà été entendu comme témoin, puis qui a été entendu comme suspect dans le cadre d'une garde à vue précédente. Et qui là est rattrapé, si je puis dire, par cette affaire, puisqu'il reçoit une convocation pour une nouvelle garde à vue. Vous l'avez dit, il est très alcoolisé, il est sous médicaments, il est embrumé, il n'est pas clair, et il suffit en fait de lire les retranscriptions de ces écoutes téléphoniques et de les écouter pour se rendre compte qu'en réalité, c'est des aveux qui n'en sont pas, si vous voulez. Vous l'avez dit, il dit « c'est moi, je vais dire que c'est moi, mais c'est pas moi ». Mais tout ça, en fait, est très confus, si vous voulez. Mais en fait, on ne peut pas parler d'aveux circonstanciés, clairs et précis.
Et pourtant, maître, je vous interromps, mais et pourtant, ça va être la pièce centrale du dossier, cette conversation téléphonique.
Oui, mais parce qu'ils n'ont que ça. Il n'y a rien d'autre dans le dossier contre Gérald Thomassin. Il n'y a pas un élément matériel, il n'y a pas un témoignage direct ou indirect de sa participation à ces faits. Et vous avez cette conversation téléphonique enregistrée dans un contexte et à un moment très particulier, puisqu'il sait qu'il est de nouveau convoqué pour une garde à vue. Il sait qu'il va refaire une garde à vue dans le cadre de ce dossier et donc appelle son frère pour partager ce qui est son état d'esprit à ce moment-là, dans complètement embrumé et alcoolisé, pour dire c'est pas lui, mais je vais dire que c'est moi. C'est pas moi, mais je vais dire quand même que c'est moi parce que je vais en finir avec cette histoire.
Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès, vous êtes également en ligne ce soir dans l'heure du crime avec nous. Est-ce que la pression, si je puis dire, là aussi entre guillemets, la pression du père de la victime a joué dans cette affaire, notamment avec cette espèce d'enquête parallèle qui mène un petit peu le père de cette postière, et on le comprend d'ailleurs.
Bon, je crois pas qu'on puisse parler de pression, simplement c'est quelqu'un vraiment ravagé par la douleur d'avoir perdu sa fille. On peut comprendre qu'il ait voulu aider les gendarmes autant que faire se peut, mais bon bah vous et moi nous savons que les enquêteurs dans ce genre d'enquête ne se laissent pas guider par quelqu'un d'autre. Bon, ils entendent tout le monde, mais en tout cas ils gardent quand même une ligne. Bon, ils l'avaient de toute façon dans le collimateur, parce que Thomassin, il habitait à côté, c'était un marginal, et faute de mieux, bon bah ils se sont focalisés sur lui. Ils sont également focalisés sur lui parce que ces deux copains ont plus ou moins évolué dans leur déclaration. On dit que finalement, quelques années après, ils se souvenaient plus trop. Peut-être que dans le studio, quand ils sont venus ce jour-là, il y avait une odeur de propre. Enfin, vous voyez, bon, il y a eu des choses. Et de toute façon, il y avait aucune piste. Donc, finalement, en désespoir de cause, on va dire, pour clôturer le dossier, ils se sont refocalisés sur Thomassin en le mettant sur écoute.
Et d'ailleurs, Frédéric, c'est un dossier qui est très vite dans le désordre, hein, parce que tout le monde dit tout et son contraire dans cette histoire. Hein. Il y a des aveux, puis on revient sur les aveux, etc. Et tout le monde est...
Oui, enfin, des aveux qui n'en sont pas, comme a dit Maître Radeau. Hein. Effectivement, il y avait que ça, c'était assez ténu, il y avait qu'une impression un peu générale. C'est vrai que Thomassin, il a un peu le profil du coupable idéal,
Maître Radeau, je reviens vers vous. Donc Gérald Thomassin est mis en examen, il va être écroué. Que va-t-il se passer pour lui désormais ? Je crois que vous, avocat, vous allez vraiment ferrailler pour essayer de le sortir au plus vite de la prison.
Alors, pour être tout à fait précis, moi, j'étais le collaborateur d'Éric Dupond-Moretti qui suivait ce dossier à compter de 2017. Avant moi, c'était Benoît Cousin, l'ancien collaborateur d'Éric Dupond-Moretti, qui a, avec Éric Dupond-Moretti, ferraillé et bataillé pour le sortir de détention. Il restera quand même à peu près 3 ans en détention, puisqu'il ne sortira qu'en 2016, après l'infirmation de l'ordonnance de mise en accusation par la Chambre de l'instruction de Lyon.
Et à ce moment-là, lorsqu'il est en prison, le dossier ne va pas évoluer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les investigations sont au point mort, on en reste sur ces déclarations.
Concernant Gérald Thomassin, il n'y a strictement aucun élément supplémentaire en plus de ses pseudo-aveux lors de cette conversation téléphonique avant sa garde à vue, qui ne rentrera dans le dossier. Aucun élément.
Donc on est au point mort, on est d'accord, la procédure ne va pas évoluer et on se retrouve avec quelqu'un qui là, désormais, ne revient pas sur ses premières déclarations et qui nie farouchement toute implication dans ce crime, on est d'accord?
Bien sûr.
Il faudra donc attendre 2 ans, le 26 mai 2015, pour que Gérald Thomassin soit remis en liberté sous contrôle judiciaire, mesure qui ne met pas pour autant un terme aux poursuites. Il demeure le meurtrier présumé de Catherine Burgot. Il risque, un jour ou l'autre, d'être renvoyé devant une cour d'assises, sauf fait nouveau. Et c'est ce qui va se passer avec l'apparition de nouveaux suspects. L'affaire Thomassin, l'histoire d'un coupable sur mesure. C'est l'enquête de l'heure du crime ce soir. A tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Thomassin, du nom de l'acteur Gérald Thomassin, mis en examen pour meurtre en 2013, en liberté provisoire depuis 2 ans. L'enquête semble bouclée, mais va connaître d'étonnants rebondissements. Gérald Thomassin a été remis en liberté sous contrôle judiciaire en raison d'un état de santé physique et psychologique des plus fragiles. Il a très mal vécu son incarcération à la prison de Lyon-Corbat, régulièrement hospitalisé lors de sa détention. Après avoir avoué le meurtre de la postière lors d'une conversation téléphonique captée par les enquêteurs, il n'a cessé de répéter qu'il n'était pour rien dans le crime. Le dossier souffre de vices de procédure. En 2016, la cour d'appel retoque le renvoi de Thomassin devant la cour d'assises. 2 juges de Lyon sont désignés pour reprendre le dossier. Après 1 an d'investigation, ces magistrats ordonnent l'arrestation d'un autre homme, un certain Anthony V, alors âgé de 31 ans, un marginal qui connaît Thomassin. Anthony V n'est pas considéré comme auteur principal du meurtre, mais complice du comédien. Il est mis en examen et écroué. 1 an plus tard, septembre 2018, nouveau coup de théâtre dans l'affaire Thomassin. Les enquêteurs interpellent un troisième homme, Mamadou Diallo. Il avait 19 ans au moment des faits. Son ADN match avec certaines traces découvertes sur le lieu du crime, le bureau de poste de Montréal-Lacluse, mais pas sur le corps. Mamadou Diallo figurait depuis une date récente au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, après avoir commis une infraction. Il nie les faits, il reconnaît être entré dans le bureau de poste, mais n'a pas tué. Il a vu le corps et s'est emparé d'une liasse de billets. Il est mis en examen pour meurtre aggravé et vol avec arme. Lui aussi est écroué. 3 suspects pour l'affaire du meurtre de Catherine Burgot. Manifestement, cela fait beaucoup trop de monde. Les juges de Lyon vont s'accorder encore quelques mois d'instruction pour essayer de voir précisément qui a fait quoi dans cette affaire et si le premier mis en cause, l'acteur Gérald Thomassin, doit être renvoyé devant une cour d'assises. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès, en ligne avec nous ce soir dans l'heure du crime. Alors, qui sont ces suspects, si je puis dire, de la dernière heure? On va parler tout de suite, Anthony V d'abord, le premier qui a été arrêté. Qui est-il?
Anthony V, donc le 4 juin 2016, il lit dans le Progrès que Thomassin est libéré. Le lendemain, il va voir les gendarmes, il leur dit « mais c'est n'importe quoi, c'est un fou dangereux, moi je le connais, vous venez de libérer un criminel ». Enfin, il tient des propos assez confus et il dit qu'il a des choses à dire. Finalement, il répond pas au rendez-vous des gendarmes, ils sont obligés de profiter d'une garde à vue quelques mois plus tard. Bon, c'est un toxicomane qui commet quelques petits délits d'outrage, ce genre de choses. Et donc, ils en profitent pour effectivement lui parler entre deux portes, lui dire alors, qu'est-ce qu'il y a quelques mois, t'avais des révélations à faire, de quoi il s'agit. Et ils envoient ce qu'on appelle un renseignement judiciaire où ils disent, voilà, le dénommé Anthony nous a dit que c'était Thomassin, que lui-même, ce Anthony, aurait été dans la rue, il aurait fait le biais avec un troisième homme qui est mort entre-temps. Enfin bon, c'est très très confus, mais c'est quelque chose qui est hors procédure. Bon, ça n'empêche pas le juge d'instruction de le mettre en examen pour complicité. Il fera un petit peu de détention provisoire, mais finalement assez peu, parce qu'il purge des peines, il avait tout un tas de peines à purger. Et finalement, au bout de quelques mois, il sortira du dossier, parce qu'il y avait rien contre lui, c'est-à-dire que ses propos qu'il a tenus, on va dire, entre deux portes, n'ont jamais été tenus dans le cadre d'une garde à vue, filmée, enregistrée, vous voyez, dans les,
alors ça,
selon
c'est...
la procédure.
Alors ça, c'est étonnant, parce que là, on est totalement hors les clous, si je puis dire. Maître Camirado, c'est bien ça, non ? La procédure est un peu bizarre à ce moment-là.
Bah, la procédure, en ce qui est bizarre en tout cas, c'est de s'être servi de ses propos recueillis dans ces conditions pour après asseoir une mise en examen d'Anthony V et de conforter la thèse d'une complicité avec Gérald Thomassin. Moi, je ne vais pas me prononcer sur la régularité de la procédure. Ce que je peux dire, c'est que ces déclarations d'Anthony V effectivement ont été recueillies dans des conditions assez étranges sur lesquelles je n'étalerai pas, mais qui sont tout aussi décousues. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que Anthony V et Gérald Thomassin, à l'époque du meurtre de la postière, ne se connaissent pas. Donc, asseoir une complicité dans ces conditions, c'est un peu compliqué.
C'est ça.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été libéré assez rapidement et puis mis hors de cause assez rapidement aussi.
Ils se connaîtront évidemment par la suite. Frédéric Boudouresque, je reviens vers vous. On parlait d'Anthony V, vous avez dressé son portrait. Alors qui est l'autre finalement mis en examen, le dernier apparu dans la liste, ce Mamadou Diallo?
Mamadou Diallo, on peut dire qu'il n'a rien à voir avec les deux autres. Hein. Autant
ils
Anthony
se pas,
et,
ils se connaissent pas.
Et Gérald sont des marginaux, des toxicomanes. Mamadou Diallo, a priori, ne se connaissent pas, du moins aucune connexion n'a été trouvée. Lui, c'est un gamin, a priori sans histoire, bon, qui joue dans un club de foot, qui suit une formation en apprentissage dans une entreprise du coin, et qui ensuite est embauché par une société d'ambulance. Il est ambulancier. Il est très apprécié de ses collègues, de son patron, des personnes qui transportent. Bon, tout le monde tombe un peu dénu quand il est arrêté. Voilà, c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui a le profil entre guillemets. Ceci dit, bon, il rentre quand même dans le FNAEG, dans le fichier des empreintes génétiques, parce que sa copine l'accuse de lui avoir dérobé sa carte bleue, voilà, pour faire quelques achats. Donc bon, mais c'est un fait de petite délinquance, on peut dire.
Oui, il n'a pas été poursuivi ni condamné pour des violences, etc. jusqu'à présent, hein, Mamadou Diallo.
Tout à fait.
Hein, donc voilà, donc il est. Toutefois, on retrouve son ADN, et je le répète, ADN qu'on retrouve non pas sur le corps, mais je crois sur le sac à main de la poste.
En deux endroits de la scène, voilà, du crime, donc effectivement sur un monnayeur et également sur un sac de sport qui a été abandonné sur place, qui n'appartenait pas à la victime ni à sa collègue de travail, donc on a supposé que ce sac de sport avait été emmené sur place par le ou les meurtriers.
Maître Camille Radeau, vous êtes l'avocat de Gérald Thomassin. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que le dossier bascule véritablement, avec ces deux nouvelles mises en examen ?
Évidemment, c'est un coup de théâtre incroyable. Pour Gérald Thomassin, c'est évidemment une délivrance, puisque lui, à cette époque-là, se bat depuis presque 10 ans pour prouver son innocence. Et forcément, cette arrestation... Est un soulagement pour Gérald Thomassin.
Vous pensez que là, ça y est, c'est bon, cette fois, Gérald Thomassin va être exonéré de, si je puis dire, de sa mise en examen ?
Bah, si vous voulez, sauf à échafauder l'hypothèse d'une complicité d'Anthony V, Gérald Thomassin et Mamadou Diallo, alors que vous l'avez rappelé, des profils qui sont complètement différents, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais vus, c'est difficile de faire tenir les trois hommes dans le même dossier.
Un scénario effectivement improbable. Trois hommes qui vont être confrontés les uns aux autres. Une dernière étape judiciaire pour approcher de la vérité et pourquoi pas la faire éclater. L'affaire Thomassin, un acteur devenu meurtrier ou un coupable idéal? L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL.
Et ce soir, retour dans l'heure du crime sur l'affaire Thomassin. 6 ans après sa mise en examen pour le meurtre d'une postière, voici l'heure du dénouement. Gérald Thomassin clame depuis des mois son innocence. L'occasion va lui être donnée d'en faire la démonstration. 2019 est prévu pour être un grand jour dans le cabinet du juge d'instruction lyonnais Michel Noyer. C'est le jour de la confrontation de tous les acteurs du dossier Catherine Burgot. Cette postière assassiné en 2008. Trois hommes sont mis en examen dans cette affaire. Les deux premiers commencent à prendre place en demi-cercle face au bureau du juge. Il y a là Anthony V, soupçonné de complicité de meurtre, 33 ans. Il a été libéré sous contrôle judiciaire à l'automne 2017, après 8 mois de détention provisoire. Également présent, Mamadou Diallo, 29 ans, seul détenu dans cette procédure, mise en examen pour meurtre. Son avocate, Sylvie Novakovic, dément cette accusation. C'est elle qui a souhaité cette confrontation. Manque le troisième homme, le comédien Gérald Thomassin. On va l'attendre, mais Thomassin ne viendra pas. Il a disparu. Maître Sylvie Novakovic, merci de nous rejoindre dans l'heure du crime. Vous êtes au téléphone avec nous ce soir. Votre voix nous intéresse parce que vous êtes l'avocate de Mamadou Diallo, l'homme désormais accusé du meurtre de la postière. Est-ce que vous êtes déçu que cette confrontation n'ait pas eu lieu ?
Je suis extrêmement déçue qu'il n'y ait pas eu cette confrontation. C'est moi qui l'ai réclamée. Et cette confrontation aurait été extrêmement importante parce que, comme vous le savez, mon client clame son innocence. Et on a toujours espéré cette rencontre avec, effectivement, Monsieur Thomassin, qui aurait pu à nouveau avouer, parce qu'on sait qu'il l'a fait à plusieurs reprises, sont des faits, parce que je suis absolument convaincue que mon client est innocent.
Alors un petit mot encore, pourquoi selon vous Gérald Thomassin ne s'est pas présenté dans le cabinet ce jour-là du juge Noyer ?
Je suis convaincue qu'il s'est enfui, comme il l'a déjà fait, voire même peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, mais dans tous les cas, de façon certaine, il a avoué les faits à plusieurs reprises. Il y a eu des enregistrements effectivement téléphoniques qui le démontrent. On a plusieurs éléments qui ont fait qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises avant même qu'on ait trouvé l'ADN de mon client. Donc pourquoi aujourd'hui il n'aurait pas été renvoyé ? Et d'ailleurs, je vous précise quand même que monsieur le procureur de la République avait demandé le renvoi de monsieur Diallo devant la cour d'assises, mais également de monsieur Thomassin.
La veille de la confrontation, Gérald Thomassin était pourtant bien décidé à témoigner devant le juge et à être confronté aux deux autres mis en examen. C'est ce que vont affirmer ses proches. Il se serait montré soulagé qu'un suspect ait été arrêté grâce à l'ADN. Il n'aurait eu aucune raison de se dérober à ce rendez-vous qui allait lui donner une chance d'établir son innocence. Ce 28 août 2019, Thomassin se rend donc à la gare locale pour prendre le train pour Lyon. Un ami qui l'héberge l'accompagne sur le quai. Thomassin embarque. Sur le trajet, il a affaire à un contrôleur à 10h18, puis on perd sa trace à la hauteur de Nantes, ville de correspondance pour son TGV. Son téléphone borne pour la dernière fois dans le secteur. Gérald Thomassin disparaît dans la nature. Disparition incompréhensible. Le parquet de Nantes finira par ouvrir une enquête pour enlèvement et séquestration. En juin dernier, Gérald Thomassin obtient un non-lieu dans l'affaire du meurtre, blanchi comme Anthony V. Seul Mamadou Diallo sera renvoyé devant une cour d'assises. L'histoire ne dit pas si Gérald Thomassin a su un jour qu'il n'était plus accusé d'un meurtre qui le poursuivait depuis 12 ans. Maître Camille Radeau, vous êtes l'avocat de Gérald Thomassin et l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre client ?
Non, évidemment non. Et je ne peux pas laisser dire à mon confrère qu'il était en fuite.
C'était l'interview de Maître Novakovic, hein, c'est ça ?
Exactement. Je peux pas laisser dire qu'il est en fuite, Gérald Thomassin, parce qu'il n'y a rien qui permet de le dire et qu'il faut quand même souligner que alors qu'il était en liberté, Gérald Thomassin, et que Mamadou Diallo n'était pas encore dans le dossier, il a toujours répondu à toutes les convocations du juge d'instruction. Il s'est rendu aux interrogatoires auxquels il a été convoqué par le juge d'instruction. Il a respecté son contrôle judiciaire. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun élément qui permet de dire qu'il est en fuite, s'agissant en plus d'un profil ancien toxicomane, extrêmement fragile, qui n'a évidemment pas les moyens d'une cavale. Et vous l'avez dit, il y a quand même une procédure qui a été ouverte pour enlèvement et séquestration.
Oui, alors un mot là-dessus, maître, parce que je ne comprends pas tous cette histoire. Enlèvement et séquestration, ça veut dire qu'il est dans les mains de quelqu'un ?
Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne disparaît, on peut soupçonner effectivement qu'il est séquestré quelque part.
Et donc là, le parquet de Nantes a ouvert cette enquête, qui se poursuit actuellement, je crois. Hein.
Oui.
C'est une enquête qui n'est pas refermée, mais qui n'a pas donné ses fruits. Il n'y a pas de trace de lui, on ne sait pas du tout où il est passé.
Non, aucune.
Aucune trace. Est-ce que, selon vous, il y a un espoir, même infime, de le retrouver? Je sais que parmi ses proches, il y a des personnes qui disent que non, sans doute, il est mort. En tout cas, c'est ce que disent souvent ses proches. Quel est votre sentiment?
Écoutez, il faut toujours espérer, évidemment, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à chercher. Maintenant, c'est vrai que les enquêteurs le disent eux-mêmes. Au bout d'un certain temps, si une personne n'a pas été retrouvée dans ces conditions, forcément, la probabilité d'une issue tragique est assez grande.
Je vous pose une autre question, Maître Radeau. Pourquoi, finalement, il n'y a plus de charges qui sont retenues contre Gérald Thomassin? Tout s'est écroulé brutalement?
Ça s'est pas écroulé brutalement, si vous voulez. Moi, je persiste à dire qu'il n'y a jamais eu. C'est pas moi qui le dis seulement. D'ailleurs, c'est le juge d'instruction qui le dit dans son ordonnance de mise en accusation. Il n'y a aucun élément dans ce dossier qui permettait le renvoi, la mise en accusation de Gérald Thomassin devant une cour d'assises. Donc, c'est un dossier qui, le concernant, on a évité une erreur judiciaire et l'arrestation de Mamadou Diallo a permis d'écarter évidemment l'implication de Gérald Thomassin, parce que de toute évidence, un scénario à trois n'avait aucun sens.
Mamadou Diallo qui continue à démentir les accusations dont il est l'objet. Maître Novakovic l'a rappelé, effectivement, il est toujours sous cette ligne de défense. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès, en ligne, toujours avec nous depuis le début de cette heure du crime consacrée à Gérald Thomassin. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la voie ouverte pour un procès en cour d'assises, c'est ça?
Maintenant, oui, c'est simple. Alors, Maître Novakovic a formé un pourvoi en cassation, dont je ne connais pas l'issue, mais c'est vrai que juridiquement, il y a encore cette possibilité avant qu'un procès en assises ne soit effectivement organisé. Il y a cette possibilité qu'on va dire le dossier soit une cassation et qu'effectivement, le dossier soit réouvert. C'est cette ultime possibilité, mais sinon, effectivement, pour l'instant, Thomassin est sorti du dossier. Hein. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que
Allez-y.
Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est quand même que ce meurtre a eu lieu sans que personne ne voit quoi que ce soit, mais ce qui peut paraître normal, on va dire, dans un petit village. Mais la disparition de Thomassin, elle se déroule, on va dire, en gare de Nantes. Alors, on imagine le nombre de gens qui doivent passer en gare de Nantes. Mmh. Et effectivement, personne n'a rien vu, personne ne sait ce qu'il est devenu. Maître Novakovic a parlé d'une fuite. Moi, je pense que ça paraît un peu curieux. Thomassin, c'est pas Yvan Colonna. Bon, c'est pas un de ces truands, un de ces beaux mecs qui vont se planquer en Espagne. Sa vie, elle est parfaitement transparente. Les enquêteurs, depuis des années, connaissent la moindre de ses connaissances, la moindre de ses points de chute. C'est pas quelqu'un qui peut organiser une cavale. Ça nous paraîtrait quand même extraordinaire. Donc, comme tout le monde, moi, je pense que Thomassin a certainement été victime, effectivement, d'une mauvaise rencontre ou d'une rencontre organisée, prévue, préméditée. Mais bon, l'avenir le dira le jour où l'enquête de Nantes sera bouclée.
Une mauvaise rencontre ou peut-être une dérive suicidaire, hein, puisqu'il était quand même dans un état pas très, dirais-je, positif au moment.
C'est quelqu'un qui a passé sa vie à commettre des tentatives de suicide. Il s'est même défenestré à deux reprises. On a gardé des séquelles. Et d'ailleurs, le jour du meurtre, hein, le 19 décembre 2008, c'est deux copains qui arrivaient dans la rue et voyaient les pompiers, etc. La première chose qu'ils se sont dit, c'est « Ah tiens, Thomassin a encore fait une tentative de suicide ».
C'est ça. Merci beaucoup, Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès, Maître Sylvie Novakovic et Maître Camille Radeau, qui étaient en ligne dans l'heure du crime, d'avoir été l'invité de cette émission consacrée ce soir à l'affaire Gérald Thomassin. Plus aucune charge contre lui, mais toujours porté disparu. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre confiance et votre écoute et votre partage dans cette heure du crime. Je suis toujours ravi de vous retrouver du lundi au jeudi de 20h à 21h.